L'été sera chaud de la Côte d'Azur à Saint-Malo. Alors cet été n'a pas vraiment laissé les politiques mettre les doigts de pied en éventail. Merci qui ? Merci la crise sanitaire. Car avec la gestion du coronavirus, il a fallu pour la majorité défendre encore et toujours et pour les opposants s'opposer encore et toujours. Et puis, comme si une crise sanitaire mondiale ne suffisait pas, une crise humanitaire mondiale s'est annoncée avec les talibans de retour au pouvoir en Afghanistan et certains maires dans les Alpes du Sud tremblent et commencent déjà à tirer la sonnette d'alarme, craignant une vague d'immigration. L'été sera chaud, oui, mais la rentrée sera chaude aussi, du Verdon à Briançon. Christophe Castaner, bonjour.
Bonjour.
Président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, député des Alpes-de-Haute-Provence. Alors, c'est fini le temps où la crise sanitaire donnait un peu de répit dans le combat politique. On le sait désormais, la campagne présidentielle, elle va se jouer sur ce thème. De votre côté du ring, ça risque d'être compliqué de défendre des mesures qui sont extrêmement décriées. En premier lieu, le fameux pass sanitaire qui donne l'occasion à des manifestants de se rassembler chaque semaine dans les Alpes du Sud.
Oui, mais vous dites extrêmement décrié. Est-ce que les manifestants sont la France? Moi, je ne crois pas. Cette semaine, 87%, c'est un record historique des Français interrogés, étaient favorables à la vaccination. Et donc, il y a d'un côté ceux qui crient et de l'autre ceux qui font. Et je pense à la fois aux politiques, tous bords confondus, aux élus locaux, mais je pense aussi aux Français qui subissent la crise sanitaire. Et c'est vrai que le pass sanitaire, par exemple, est une contrainte, mais en même temps, savent que c'est la meilleure façon de vaincre le virus.
Alors, ceux qui s'opposent au pass sanitaire ont été qualifiés par le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, comme une minorité capricieuse et défaitiste. Est-ce que les mots sont bien choisis ?
Écoutez, moi, je vais pas commenter les mots des uns et des autres. Ce que je vous dis, c'est que aujourd'hui, on a une arme de destruction massive du virus. Ça s'appelle la vaccination. Et donc, je ne comprends pas ceux qui, au nom d'une prétendue liberté, la leur individuelle, veulent faire peser un risque, et le risque du retour du confinement, le risque des femmes et des hommes qui continuent à mourir dans notre pays. Il y avait hier 2305 personnes en réanimation, et encore une progression de 218. Ça n'est pas rien, il y a eu hier 136 personnes qui sont mortes de la Covid dans notre pays. Et donc, la liberté de quelques-uns ne doit pas empêcher le pays, c'est cela que je dis.
Mais parce que pour eux, passeport sanitaire, en fait, c'est tout simplement un synonyme d'obligation de se faire vacciner.
Mais c'est pas une obligation, parce que vous avez d'autres possibilités. Nous avons la chance en France, par exemple, que les tests PCR soient encore pris en charge. Nous l'avons voulu dès le début de la gestion de la crise sanitaire. Dans d'autres pays, y compris voisins, en Espagne, en Italie, les tests sont payants. Et donc, il n'y a pas d'obligation. Mais vous savez, on aurait pu décider de ne rien faire. Et je pense qu'une grande partie de cela seraient aussi en train de manifester parce qu'ils veulent manifester contre l'exécutif, contre Emmanuel Macron. Et si nous avions dit, comme dans d'autres pays, que la politique de vaccination était totalement obligatoire, ils auraient crié. Nous avons des professionnels de la manifestation, des professionnels de la peur, des professionnels de l'angoisse, mais je leur dis individuellement, je peux comprendre les doutes, les questionnements, mais la raison compte. Nous sommes dans le pays de Pasteur, nous sommes dans un pays qui sait faire confiance à la science, et donc n'imagine nous vivons avec le pass sanitaire, soit une lubie d'Emmanuel Macron ou du président du groupe que je suis, parce que l'essentiel des pays l'ont mis en œuvre. Le Danemark, par exemple, qui sort aujourd'hui totalement des contraintes, a mis en place depuis plusieurs mois le pass sanitaire et ces solutions-là.
Selon vous, Christophe Castaner, s'opposer au pass sanitaire, en fait, c'est tout simplement une façon déguisée de s'opposer à Emmanuel Macron.
Pour certains, oui. Mais je trouve que nous parlons beaucoup trop d'une petite minorité. Et moi, j'ai envie de parler aux Alpins de Haute-Provence, aux Alpins, qui, très tôt, dès qu'ils ont eu accès à la vaccination, s'est monté en puissance depuis la fin de l'année dernière, se sont engagés. Et aujourd'hui, nous avons encore des progrès à faire. On a encore des publics fragiles qui sont quelquefois en risque. Mais l'essentiel des habitants, l'essentiel de celles et ceux que je rencontre, sont favorables à ces mesures, qui sont des mesures de protection.
C'est la rentrée des classes aujourd'hui pour 50 000 écoliers, collégiens, lycéens dans les Alpes du Sud. Pourquoi on ne parle pas de pass sanitaire au sein des établissements scolaires pour les personnels de l'enseignement ?
Et parce que sinon, on nous ferait le reproche de dire, mais vous le rendez obligatoire, etc., etc. Mais là aussi, vous apercevez que l'essentiel des enseignants ont, comme citoyens, et certainement aussi comme professeurs, fait la démarche pour se faire vacciner. Et il faudra qu'on aille encore plus loin. Et d'ailleurs, nous sommes dans une politique du aller vers, c'est-à-dire aller vers ceux qui ne sont pas encore vaccinés, avec des centres de vaccination décentralisés qui vont aller dans tous les lieux public, dans les écoles, dans les collèges, surtout, et les lycées, pour qu'on puisse renforcer encore la vaccination.
Cette théorie, en tout cas cette pratique de l'école ouverte défendue par le ministre de l'Éducation nationale, défendue aussi par Bernard Beignet, le recteur de l'Académie, qui était l'invité du 8-30 hier, elle n'est pas sans risque aujourd'hui. Hein. Même Bernard Beignet le disait, le risque d'une vague d'épidémie, sachant que le variant Delta s'attaque aussi à la jeunesse.
Oui, et que les jeunes sont aussi porteurs et diffuseurs de ce virus. Et donc,
ça a donc une limite, l'école ouverte.
Oui, mais vous savez, certains pays ont choisi dès le début de la crise sanitaire de fermer l'école. La France est un des pays au monde qui a garanti l'ouverture de l'école le plus longtemps possible parce qu'on sait que c'est essentiel. Parce que quand, dans la construction d'une vie, vous perdez une année de scolarité, c'est quelquefois un affaiblissement que vous subirez tout au long de votre vie. Et donc oui, on assume cette part de risque, on a mis les moyens aussi pour que tout se passe bien pour cette rentrée. Et nous savons qu'il y aura au sein de l'école une petite diffusion du virus. Mais là aussi, n'oublions pas que les gestes barrières, nos propres attitudes, et je le dis aux plus jeunes, qui sont aussi responsables et qui ont conscience de cela, c'est une façon de lutter contre le virus, il ne faut pas la négliger.
La saison touristique a été belle dans les Alpes du Sud, belle dans les Alpes d'Haute-Provence, mais du côté des deux départements, il y a la même problématique qui s'est posée cette année, c'est le manque de main-d'œuvre au niveau des socio-professionnels. Un sujet qu'il va falloir certainement travailler, sur lequel il va falloir certainement travailler dans les prochaines semaines. Que peut-on faire? Qu'est-ce qu'un député peut proposer?
D'abord, c'est accompagner une politique globale. Nous avions conscience de ce risque-là, qui n'est pas nouveau, celui de voir aujourd'hui des offres d'emploi qui ne sont pas pourvues dans notre pays. On agit à plusieurs niveaux. D'abord, dans la formation, quand en début de quinquennat, on mobilise 15 milliards d'euros pour renforcer la formation, pour aller vers les métiers et les métiers qui sont en tension, c'est indispensable. Et dans le plan d'investissement d'avenir, on a prévu aussi des moyens sur la formation. Et puis ensuite, il faut assumer de traiter les problèmes. Prenez le sujet de la réforme de l'allocation chômage. Dans certains cas, pas tous, et je ne dis pas que ça concerne tous les chômeurs, vous pouvez ne pas avoir un intérêt financier à retourner vers l'emploi. Et vous pouvez du coup avoir une offre d'emploi et ne pas forcément faire la démarche. Je sais que certains considèrent que en disant cela, je commets des propos qui sont insupportables, etc. Mais c'est une réalité. On multiplie des contrats courts. Combien de fois, en me déplaçant dans les Alpes-de-Provence, j'entends des chefs d'entreprise, des agriculteurs me dire « Bon, on voit des jeunes qui viennent pour recharger. » Recharger, c'est-à-dire recharger les droits au chômage. Eh bien, cette réforme, on l'a votée, on a beaucoup été critiqué, on l'a suspendue parce que la crise sanitaire était là. Les choses vont mieux en matière d'emploi, on a retrouvé un niveau d'emploi d'avant la crise. Eh bien, cette réforme, elle rentrera en vigueur au 1er octobre pour que jamais le maintien au chômage ne soit plus intéressant, dans certains cas, je le redis, que d'aller travailler. On doit aussi aider par la formation, par l'accompagnement et faire en sorte que le travail soit mieux payé.
Oui, mais Christophe Castaner, justement, cette réforme du chômage, elle inquiète, et notamment elle inquiète Yvan Chaix, le directeur de l'Agence de développement des Hautes-Alpes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les saisons été et hiver sont de plus en plus courtes, ce qui veut dire que les saisonniers ne pourront pas forcément avoir droit au chômage. Et donc, ils vont certainement aussi partir sur d'autres formations, sur d'autres secteurs. Et là, on est déjà dans un manque de main-d'œuvre. Demain, ça pourrait être encore pire.
Effectivement, dans certains cas, ça peut être considéré comme pratique par certains d'avoir des femmes, des hommes qui ont des contrats courts et qui ensuite ont de longues périodes de chômage. Moi, je ne le considère pas. Et donc, le marché du travail, y compris du côté des saisonniers, devra s'adapter à cela. Il est insupportable de se dire que ben, il n'y a pas de problème, je peux faire un contrat de X jours parce que de toute façon, ce sera complété ensuite par le chômage, c'est-à-dire par la solidarité de toutes celles et tous ceux qui travaillent et qui cotisent pour le chômage. Et donc, si effectivement, on a un modèle économique qui s'appuie sur une fausse rémunération, c'est-à-dire celle qui est payée dans le cadre du contrat, mais aussi celle qui sera compensée plus tard dans le cadre d'une allocation chômage, ça n'est pas normal.
Mais qui doit faire les efforts ?
On a une augmentation de 250% des contrats courts. On ne peut pas vivre dans notre pays avec des contrats courts. Et qui doit faire les efforts ? L'ensemble du système, mais aussi les employeurs.
Alors, hiver, remontée mécanique, fermée ou non, c'est aussi l'inquiétude. Est-ce qu'il y aura le pass sanitaire ? C'est une des pistes qui est engagée ?
Aujourd'hui non, mais je dis avec la prudence que l'on apprend au fil du retour de variants et de variants différents, il faudra voir la situation en ce moment-là. Mais aujourd'hui, la situation est plutôt favorable, même si je vous ai indiqué d'un point de vue sanitaire que les chiffres s'aggravaient à l'hôpital. On a une baisse d'à peu près 15% constante grâce à l'effort de vaccination des Français de diffusion du virus. Et donc on est sur une situation qui est maîtrisée. Mais c'est la vérité d'aujourd'hui, parce que je ne suis pas scientifique. Mais je fais comme les scientifiques nous disent, c'est-à-dire qu'ils se prononcent sur les données qu'ils ont aujourd'hui. Mais je suis optimiste pour qu'on ait enfin une belle saison d'hiver sur nos territoires alpins.
Alors, je le disais en introduction, il y a la crise sanitaire et puis il y a une crise humanitaire qui s'annonce, la crise en Afghanistan, avec la crainte de certains élus locaux, notamment Arnaud Murgia, le maire de Briançon, vice-président du conseil départemental des Hautes-Alpes. Lui craint que le flux migratoire ne double dans les prochains mois, il l'a écrit. À force de dévoyer la notion de droit d'asile et de ne donner plus aucune force aux décisions liées à l'occupation illégale du territoire, l'État se prive à la fois d'une efficacité à tenir les frontières et d'une capacité à vraiment aider ceux qui en ont besoin. L'État a dévoyé la notion de droit d'asile.
Moi, je trouve triste sur un sujet aussi sensible, parce que nous parlons de femmes, d'hommes, d'enfants, de faire de la politique politicienne, de la petite politique politicienne. Alors, je sais bien que Arnaud Murgia doit être nostalgique d'une époque politique où, par exemple, Nicolas Sarkozy était en responsabilité. Mais vous savez, pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, il y a eu 961 000 titres de séjour qui ont été accordés, premiers titres de séjour. Sous le mandat de François Hollande, c'est 1 111 000. Depuis 2017, c'est 750 000 qui ont été accordés. Et donc, il n'y a pas de dévoiement. Mais nous devons garantir, et en particulier aux Afghans les plus menacés, la possibilité de les protéger. C'est notre responsabilité, c'est notre honneur. Et faire de la petite politique politicienne n'est jamais à l'honneur de ceux qui en font.
Alors, votre entrée, c'est aujourd'hui à la mode du Caire avec la visite des établissements scolaires. Demain, ce sera à Montlot qui a été retenu par la mission Berne. La ruralité, justement, il y avait eu un sondage en mars dernier par les familles rurales. Conclusion très simple, les Français aspirent de plus en plus à la ruralité pour s'éloigner des centres urbains, mais ils constatent aussi un abandon des services publics et un sentiment aussi d'abandon tout court qui est ancré dans la population. Alors, la ruralité, c'est la grande oubliée de la politique française.
Eh bien, paradoxalement, je ne crois pas. Parce que si on réfléchit ensemble, et notre émission ne nous permet pas de prendre tout ce temps-là, quels sont les services publics dont vous avez eu connaissance ces dernières années qui auraient fermé sur les territoires ruraux? Moi, j'en connais pas. Au contraire, on a vu des déconcentrations. J'étais à Digne il y a quelque temps avec le ministre du Budget où nous annoncions des déconcentrations de villes importantes, Nice vers Digne-les-Bains et vers la ruralité. Et puis les mairies sont montées en puissance. Les établissements, les EPCI, les communautés de communes, les communautés d'agglos sont montées en puissance. Et si vous regardez l'argent public qui est investi avec tous les acteurs publics, de l'État jusqu'aux mairies, sur nos territoires, ça n'a cessé d'augmenter ces dernières années. Mais en même temps, il y a des contraintes particulières, celles de la fibre, par exemple. Je suis à la mode du Caire. Hier encore, il y a eu un incident grave sur le réseau de fibre, et la mode du Caire et une partie des communes autour ont été coupées. Et là, l'intervention est lente. J'ai échangé immédiatement, et je sais qu'elle s'est mobilisée avec Éliane Bareil, qui est pour le département le service menant sur ces sujets-là. Elle a appelé SFR, qui a renvoyé la balle à Orange, tout ça est insupportable. Et donc ce sont des petites choses, mais il y a la volonté de l'État d'être aux côtés de ceux qui portent cette ruralité vivante, conquérante, et ce sont les maires en particulier.
Alors, dernier point à la vente, les huiles essentielles menacées par l'Europe et par le fameux pacte vert, menacées d'être classées comme produits toxiques. Est-ce que, comme Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous êtes prêt, Christophe Castaner, à monter jusqu'à Bruxelles?
Mais j'ai échangé évidemment avec Julien de Normandie, nous sommes en discussion, pour l'instant rien n'est sorti, aucun document, nous sommes sur une inquiétude, mais une inquiétude qui a un vrai fondement, on l'a connu il y a quelques années quand déjà je me suis battu pour que la directive REACH puisse accompagner la production de lavande plutôt que la menacer. Ensuite il y a la volonté de l'Europe de faire en sorte qu'il y ait une transparence pour les usagers sur l'ensemble des produits qui sont en bout de course consommée, et nous avons dans la lavande un produit qui s'appelle l'imanol qui peut présenter une forme de dangerosité. Mais nous devons convaincre l'Europe, et nous avons le faire, et nous le ferons aux côtés de Renaud Muselier, aux côtés de Julien de Normandie, aux côtés du président de la République, qui est aussi très attaché à la fois à la question agricole, mais à la fois à nos identités régionales, et la lavande en fait partie, essayer de convaincre, et nous convaincrons Bruxelles, qu'il faut que sur les produits agricoles, avant la transformation, l'immigration, il n'y ait pas cet excès de zèle européen que nous connaissons hélas trop souvent. Mais je sais que les producteurs de lavande sont inquiets d'une nouvelle réglementation européenne et nous devons là-dessus être vigilants tous ensemble.
Merci beaucoup Christophe Castaner d'avoir été avec nous.
Merci.
Je rappelle
vous.
Que vous êtes le député des Alpes-de-Provence. Vous faites votre entrée aujourd'hui à la Motte du Caire et demain du côté de Montlot. Merci.